Il est 14h et des patates sur Syllab et vous apprêtez à écouter une émission produite en 2021.
Il était une fois une émission. Elle était musicale, elle était participative. Elle s'appelait Le sens du son. À chaque épisode, un mot, un thème qui évoque une pluralité de sens, une diversité de sons. À chaque épisode, ses participants et participantes proposeront une musique accompagnée d'une parole qui racontera un peu de musique, mais aussi un peu de soi. Allez, il est l'heure de reprendre. Bienvenue dans le sens du son.
Il se trouve que par la force des choses, je me retrouve dans une chapelle. Peut-être même que vous entendez les cloches qui sont en train de sonner. Du coup, je me suis dit que ce serait dommage de ne pas profiter de l'occasion pour enregistrer cette introduction à cet épisode sur culte. Ben oui, pour une fois, je me retrouve dans un lieu de culte. C'est vrai que c'est pas tous les jours. Et en fait, cette chapelle, elle a un truc un peu particulier, un peu comme cette intro, qui en fait est un peu une participation parce que dans cette chapelle, je retourne à sa particularité, cette chapelle, en fait, il y a des oiseaux suspendus à la aux poutres. Et du coup, j'ai passé ma journée dans cette chapelle à dire « Bonjour, regardez, il y a des oiseaux. » Et dans ma tête, j'avais cette chanson qui disait « Et là-haut, les oiseaux qui nous regardent tout petits, petits. » Et du coup, je vais vous imposer cette chanson sans autre explication. Je vais juste rajouter que dans cet épisode, du coup, vous allez pouvoir écouter les versions musicales de culte telles que imaginées et racontées par Pou, Anon, Megan et Matt. Bonne écoute.
Nous sommes maîtres de la terre, nous nous croyons des presque dieux. Et pan, le nez dans la poussière, qu'est-ce que nous sommes, des pouilleux. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent tout. Sur nous et crie au fou, au fou. Nous nageons tous dans la bêtise et l'on invente des drapeaux. On met des couleurs aux chemises. Sous la chemise, il y a la peau. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent tous sur nous et crie au fou, au fou. Écoutez le monde en folie, vive la mort, vive la faim, pas un ne crie, vive la vie, nous sommes tous des assassins. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tourne, tourne sur nous et crie au fou, au fou. C'est toute la terre qui gronde, bonne saison pour les volcans. On va faire sauter le monde, ramponnez-vous, tout fou le camp. Et là-haut, les corbeaux qui nous voient tout petits, tourne comme des fous et crie à nous, la vie pourrait être si belle si l'on voulait vivre d'abord. Pourquoi se creuser la cervelle quand il y a du bon soleil dehors.
J'ai pas encore très bien réfléchi à ce que je voulais raconter, donc je vais improviser. Le thème c'est culte, et au début ça m'a fait penser à l'expression film culte. Et souvent les films cultes, enfin les films qui sont considérés comme cultes, en fait c'est une expression que je comprends. Dans le sens, c'est des films qu'il faut voir parce que les hommes cis te disent qu'il faut les voir. Et du coup, ça me fait chier. Et du coup, j'ai pas envie de regarder les films cultes parce que, genre, ça, pour moi, c'est de la culture très masculine et ça me saoule, tu vois. Mais du coup, j'avais pas du tout envie de parler d'une BO d'un film. Donc, je me suis dit, il y a quoi d'autre au sens de culte? Il y a le culte, genre, culte religion, culte, tu vois, dans le sens, tu voues un culte à quelque chose. Et ça m'inspirait pas non plus. Du coup, je me suis dit, bon, bah, tant pis. Je vais parler d'autre chose et je vais parler de mon groupe préféré et de la chanson de ce groupe-là que je trouve la plus culte. Et après, je me suis dit, bah, c'est parfait ça, parce que ça va me permettre de parler d'un souvenir de concert. Voilà, c'est ce que je vais faire.
Bonjour, c'est Pou, plusieurs années après ma participation au podcast. Et je voudrais recontextualiser que j'avais enregistré ma participation avant que Mike Shinoda ne se lance dans les NFT et avant que Linkin Park ne se reforme avec des nouveaux membres issus de la scientologie et qui font l'apologie de la pédocriminalité. Et je voulais du coup voilà, remettre dans ce contexte-là où à l'époque je n'avais pas de raison d'être déçue de Linkin Park ou de Mike Shinoda. Et je voudrais quand même relever que ça reste intéressant vis-à-vis du thème culte de l'épisode parce que parfois, voilà, on voue des cultes à des idoles, mais voilà, une idole, c'est pas pour toute la vie parce que voilà, parfois les musiciens nous déçoivent ou d'autres artistes, hein, pas forcément eux. Mais bon, là, en l'occurrence, des musiciens. Et que voilà, c'est aussi intéressant de se questionner sur nos rapports à nos idoles et ce que c'est qu'une idole en soi, etc. Et est-ce qu'on doit s'engager pour une idole pour toute la vie?
Donc mon groupe préféré, en fait, ça n'a pas été mon groupe préféré tout de suite. Parce que au collège, mon groupe préféré, genre la période collège-lycée, mon groupe préféré c'était Coldplay. Parce que à l'époque, j'avais très mauvais goût. Non, je rigole. Si vous aimez Coldplay, il n'y a pas de souci. Mais moi, maintenant, je déteste. Je ne peux plus du tout entendre Coldplay. Ça me fait gerber. Bref. Non, pardon. Mais en gros, à l'époque, Coldplay, mais j'étais complètement dingue. Je connaissais tout par cœur. Si j'entendais une musique de Coldplay en version live, je pouvais te dire la date et la salle et la ville dans laquelle ils avaient joué cette version de telles chansons en live. Bref, j'étais complètement frappadingue. Et à la même époque, j'écoutais Linkin Park. Sauf que j'écoutais Linkin Park comme ça, genre j'aimais beaucoup les CD tourner en boucle. Dès que j'écoutais pas Coldplay, c'est que j'écoutais Linkin Park et les CD tournaient en boucle et je les connaissais par cœur. Mais dans ma tête, mon groupe préféré, c'était Coldplay. J'étais obnubilée par Coldplay. Et du coup, Linkin Park, c'était juste j'aimais bien, mais sans plus. Sauf que, bon, voilà, j'ai grandi, j'ai commencé à détester Coldplay et je me suis dit, bon, bah merde, c'est quoi mon groupe préféré, du coup? Et je me suis rendu compte qu'un groupe que j'écoute sans jamais me lasser depuis de très nombreuses années, bah, c'est Linkin Park. Genre, vraiment, depuis que j'ai commencé à écouter Linkin Park, il n'y a pas eu de période où j'ai arrêté d'écouter Linkin Park et où j'y suis revenue ensuite. Non, c'est sans discontinuer. Depuis des années, j'écoute Linkin Park. Du coup, je me suis dit, bon, bah, on va dire que c'est ça mon groupe préféré. Du coup, voilà, en 2017. Ah, je comptais pas parler de ça, dis donc, c'est fou. C'est fou ce que ça nous mène à raconter qu'on n'avait pas prévu. Mais du coup, en 2017, j'ai fait un séjour à l'hôpital. Voilà. Et quand je suis sortie de l'hôpital, genre vraiment... Enfin, j'ai appris la mort de Chester Bennington, qui est donc le chanteur de Linkin Park. J'ai appris sa mort 3 jours avant ma sortie de l'hôpital, ma sortie définitive de l'hôpital. Et ça m'a beaucoup, beaucoup touché, remué, je sais pas comment dire, parce que il est mort pour la même raison que moi j'étais à l'hôpital de base. Voilà. Et du coup, déjà je me suis dit merde, il est mort, j'aimais beaucoup ce groupe, j'aimais beaucoup Chester Bennington. Et maintenant j'ai plus Linkin Park. Je me suis dit Linkin Park, il y aura plus de nouvel album, il y aura plus de nouvelles tournées. J'aurai plus jamais l'occasion de les voir pour la première fois en concert, en tout cas au complet. Puis même ça me peinait parce que de me dire que ma santé mentale à moi était si mauvaise à l'époque, mais que j'ai réussi à survivre et que lui non. Bref, enfin, ça m'a remué, voilà, j'ai pas forcément grand-chose de plus à dire là-dessus. L'année d'après, Mike Shinoda, qui est l'autre membre fondateur de Linkin Park, qui est le rappeur de Linkin Park, si vous voyez à peu près les membres de Linkin Park, je sais pas si vous connaissez ou pas, mais si vous voyez les membres de Linkin Park, Mike Shinoda, c'est le rappeur. Donc l'année d'après, Mike Shinoda a sorti son premier album solo. Cet album s'intitule Post-Traumatique. Et ça parle de son deuil parce que du coup, il était très très ami avec Chester depuis plusieurs décennies. Enfin voilà, c'était son ami le plus proche. Et forcément, la mort de Chester, ben... Voilà quoi, il a fallu qu'il fasse son deuil et sa façon de faire son deuil, ça a été d'écrire des chansons qui parlent de son deuil. Et ensuite, il a sorti cet album, Post-Traumatique, que j'ai saigné dès la sortie. Je l'écoutais en boucle, en pleurant, parce que du coup, moi, je... Parce que c'est difficile à écouter quand on est, fan de Linkin Park et Chester Bennington. C'est difficile à écouter de voir en fait toute la peine que Mike Shinoda a eue et tout son deuil et tout ce qu'il a traversé et de voir ça dans des chansons. Enfin, je sais pas, j'ai passé des nuits et des nuits et des nuits à écouter son album en pleurant. Genre vraiment, je pleurais tout le temps. Et du coup, je me suis un peu mis à fond dans Mike Shinoda et dans ce qu'il faisait maintenant dans l'après Linkin Park. Et je suivais Mike Shinoda, tout ce qu'il faisait. J'écoutais tous les podcasts dans lesquels il participait. Enfin bref, je me suis mis à fond, quoi. J'ai vu que du coup, avec Post-Traumatique, il a débuté le Post-Traumatique Tour, qui est une tournée internationale, etc., et qui est passé à Paris. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que j'y aille, parce que c'est Mike Shinoda, parce que je l'aime, et parce que j'adore son nouvel album, et parce que voilà. Et donc, pendant cette tournée, bien sûr, il reprenait ses chansons solo de son nouvel album Post-Traumatique, et aussi des chansons de Linkin Park. Et en fait, ces concerts, tous ces différents concerts qu'il faisait, il l'a exprimé à plusieurs reprises. Ça faisait partie pour lui du processus de son deuil de son ami Chester. Et en même temps, c'était... vraiment un moment qu'on vivait tous ensemble avec tous les fans et tout ça, un peu faire son deuil, mais pas dans son coin tout seul, on faisait le deuil de notre idole tous ensemble. C'est un assez spécial et je n'avais jamais vécu ça en fait. Parce que je trouve que le deuil finalement, c'est pas du tout quelque chose qui isole. Enfin moi... Je l'ai vécu comme quelque chose de collectif. Du coup, je suis allée à ce concert avec un copain. Pendant ce concert, il a joué la première chanson culte de Linkin Park. Donc j'utilise le mot culte parce que vraiment c'est la chanson emblématique de ce groupe. Et cette chanson, c'est In The End, que beaucoup de gens connaissent. Et du coup, il a joué In The End. Et il nous a dit, du vivant de Chester, quand on l'a joué en concert cette chanson-là, Chester ne chantait pas, c'est les fans qui s'occupaient de chanter la partie de Chester. Et du coup, maintenant qu'il n'est plus là, il n'y a aucune raison qu'on fasse autrement. Donc je vais rapper et vous allez chanter la partie de Chester. Et c'est ce qu'on a fait. Donc il était juste au clavier, il n'y avait pas d'autre instrumentation que ça. Il était juste au clavier, il a rappé sa partie, j'ai rappé sa partie aussi parce que je connais par cœur et que je disais « Oh t'inquiète, je vais faire tout ». Et on a chanté tous les parties de Chester et c'était un grand moment et voilà. Après cette chanson, il nous a dit « Bon, c'était pas prévu ». Mais comme c'est chouette de chanter avec vous et de jouer juste pour vous et que vous chantiez tout seul et que c'est chouette comme ça, on va faire aussi Numb. Numb qui est du coup la deuxième chanson culte de Linkin Park. Bah, c'est la chanson que j'ai choisi de vous faire écouter parce que pour moi c'est ma chanson culte de Linkin Park et c'était voilà le prétexte pour vous parler de ce souvenir de concert et de Chester Bennington et de pourquoi c'est important pour moi.
J'ai considéré culte comme le mot qui désigne un rituel religieux, notamment dans la religion protestante où il désigne carrément la cérémonie que l'on pratique régulièrement, comme la messe chez les catholiques, mais aussi plus largement n'importe quel culte en faveur d'un dieu. Et donc ça c'était la première idée que j'avais de ce thème, le premier sens que je donnais à ce mot. Et le premier morceau auquel j'ai pensé, c'est pas tellement un morceau, c'est un chant juif, du moins de la religion juive, qui s'appelle Evenu Shalom Aleichem, qui est un chant qui célèbre la joie. Sa traduction littérale en français, c'est Nous vous apportons la joie. Bon, alors c'est pas du tout ma culture. C'est issu d'une salutation hébraïque, assez répandue, mais c'est pas du tout ma culture, c'est une culture que j'ai entreaperçue donc lors de la célébration de l'enterrement de mon grand-père, qui s'était senti redevable, qui s'est senti redevable toute sa vie, si j'ai bien compris, du fait que son père à lui avait collaboré avec les nazis, et donc il s'était impliqué toute sa vie dans une association qui prenait l'amitié judéo-chrétienne. Bon. Résultat des courses, lors de son enterrement, on a chanté ce chant, et c'était très joyeux, et puis ça a changé d'un Ave Maria ou d'un autre psaume chrétien un peu claqué au sol, comme disent les jeunes. Mais musicalement, ça reste religieux, puis c'est plus du domaine d'une comptine, par exemple, que d'un vrai morceau de musique. Alors je suis pas élitiste, mais c'est pas forcément ce que j'avais envie de partager dans ce podcast. Donc j'abandonnais cette idée. Et puis j'ai considéré en fait l'autre signification. Alors il y en a encore d'autres, hein, mais l'autre signification du mot culte que j'ai considéré, c'est l'adjectif qui permet de désigner une œuvre ou un artiste connu, donc qui est devenu culte parce que très connu. Et donc je me suis rapproché des morceaux de musique, des groupes un peu plus standards que je connais. Et le premier qui m'est venu en tête, à mi-chemin entre les deux significations du mot culte que j'évoque, c'est un morceau du groupe Ghost qui s'appelle He Is. Alors Ghost, c'est un groupe ouvertement satanique dans ses textes et qui joue un rock un peu métal parfois, assez consensuel souvent. Et bon, bah c'est clairement une chanson qui fait partie d'un culte à Satan. Donc c'est pas très subtil comme choix, à mon sens. Et puis le groupe est pas si culte que ça, même s'il commence à être bien connu. Alors j'ai continué à réfléchir, et j'ai pensé à un morceau de Queen. Bon, on est déjà sur un groupe assez culte. Donc The Show Must Go On, qui porte pour moi un message de célébration. Enfin, pour moi, c'est le sens de la chanson. Hein. Voilà, pour aller de l'avant, pour marquer la fin de l'existence de quelqu'un ou de l'existence du groupe. La mort d'une idole. Et j'aime bien cette idée que faut pas s'arrêter sur la mort d'une idole comme la fin de quelque chose, mais juste comme une étape. Et même pour aller plus loin, je dirais que c'est intéressant de remettre en question cette volonté, cette inclinaison qu'on a à idolâtrer certaines personnes. D'ailleurs, parfois, ça s'avère, enfin même souvent, j'ai l'impression que ça s'avère dangereux. Et puis bon, Queen, c'est quand même vachement connu, donc j'étais encore frustré de pas forcément faire découvrir quelque chose à un maximum de gens. Donc je me suis pas arrêté sur The Show Must Go On, qui pourtant est un magnifique morceau. Je suis resté sur le rock, ceci dit, et presque sur la même époque, puisqu'en fin de compte, je me suis arrêté sur un morceau de Pink Floyd. Bon, alors vous allez me dire, oui, bon, ben, Pink Floyd, c'est à peu près aussi culte que Queen, en fin de compte. Peut-être moins connu par des gens qui n'écoutent pas du rock, mais c'est au moins aussi culte d'un point de vue musical. Enfin bon, voilà, je m'attacherai pas de cette considération, puisqu'il fallait bien choisir un morceau. Et en fait, là, récemment, depuis plusieurs mois, j'écoute beaucoup Shine On You, Crazy Diamond, qui est un morceau de l'album Wish You Were Here. Et en fait, c'est pas un morceau de l'album, c'est, je sais pas, la moitié de l'album, en fait. C'est un morceau qui est en 9 parties. Et les 5 premières ouvrent l'album. Ensuite, il y a 3 autres morceaux. Et les 3 dernières parties de Shadow New ferment l'album. Donc, c'est un gros morceau. c'est un gros morceau. Voilà, je sais pas si Cess voudra passer les 23 minutes intégrales. À défaut, ce sera une sélection de plusieurs parties du morceau. Et donc, ce morceau de Pink Floyd, je trouve qu'il pourrait accompagner en musique la célébration de plusieurs moments de ma vie, de la vie de n'importe qui, en fait. Déjà parce que l'album Wish You Were Here, si j'en crois ce que j'ai pu lire sur Internet, ça marque quand même la fin d'une époque pour le groupe Pink Floyd, donc il y a un aspect un peu sacré. Et cette scission, enfin ce renouvellement, ce changement dans Pink Floyd, en fait, je trouve qu'il fait un peu écho à pas mal de moments de la vie où on ferme une histoire, un dossier, et qu'on passe à quelque chose d'autre. Ou alors, c'est pas un choix, c'est juste on subit une suite d'événements qui finalement trouve une clôture quelque part à un moment dans notre vie. Donc c'est assez vague hein, comme interprétation, mais c'est comme ça que je ressens le morceau. Donc ouais, je pense que si on devait faire une cérémonie pour mon enterrement par exemple, ou bien si on devait vouer un culte à la musique, eh bien ce morceau-là, il serait fort à propos.
sky.
La chanson que j'ai choisie ne répond pas forcément à la définition de culte, dans le sens large du thème. Par contre, elle a pour moi une résonance particulière, et c'est pour ça que je l'ai choisie. Tout d'abord, cette chanson est issue d'un film que j'ai découvert il y a environ 10-15 ans, qui, malgré le fait qu'il soit un nanar, regroupe plusieurs choses que j'apprécie beaucoup. Tout d'abord, c'est un film musical, ayant pour thème des sujets comme le rock, l'amour, des aliens, et des effets sonores dignes des plus grands nanars, ce que j'apprécie fortement. Donc je disais, c'est une musique issue de ce film, c'est d'ailleurs la première musique qui apparaît dans le film, qui est sortie en 84, je crois, donc digne de cette époque. Et je crois que c'est en France que cette musique a le mieux marché,
peut-être disque de platine, les premiers des hits, etc. Ça n'a pas forcément marché ailleurs, en tout cas moins. Donc moi, j'ai découvert cette musique il y a 10-15 ans. Et à chaque fois que je l'entends, ce qui arrive plus souvent qu'on pourrait le croire, puisqu'elle passe régulièrement dans le métro rennais, elle me redynamise à chaque fois. Franchement, c'est peut-être une de mes chansons préférées. Je dirais peut-être pas ma préférée, mais une de mes chansons préférées. Et elle est composée de choses qui fait que je l'apprécie beaucoup. Notamment, je trouve qu'elle a un bon rythme. La musique, en soi, est pas dégueu non plus. Les voix de la chanteuse et du chanteur s'accordent très bien. Et j'ai toujours envie de danser quand je l'écoute. Franchement, elle donne du peps. Et moi, ça me suffit à ce que je l'adore. Voilà, je vais pas rajouter grand-chose d'autre de plus. Notamment qu'il n'y a rien d'autre spécialement à rajouter. Je trouve que notamment dans la musique, il y a des choses qui doivent se laisser ressentir et non pas se faire expliquer. Donc je vous laisse écouter maintenant la chanson que j'ai choisie, qui est « When the Rain Begins to Fall » de Pia Zadora et Jermaine Jackson, qui est issue du film « Rock Aliens ». Voilà, donc si vous aimez les nanars ayant pour sujet des aliens, du rock, des effets spéciaux et des effets sonores sublimes, je vous laisse également regarder ce film qui se trouve sur internet facilement en version anglaise. Donc voilà, bonne écoute!
Bye. J'aimerais préfacer cette participation avec le fait qu'à l'heure où j'écris ce texte, je n'ai pas encore choisi quelle musique je veux mettre pour ce thème. Ceci pour la simple et bonne raison que je ne sais même pas encore où je vais avec tout ça. Je croise donc les doigts pour que l'inspiration frappe avant la fin. Donc, sans plus attendre, voici ma réflexion sur le thème de culte. On peut parler de culte religieux, culte de la personnalité, film ou série culte, musique culte, plein de dérivés en fait. Évidemment, chaque personne va penser à une chose différente avec ce mot. Lorsque j'ai demandé à ma partenaire ce qu'elle mettrait comme musique pour le thème, elle m'a immédiatement envoyé une playlist d'ambiance cultiste de Donjons et Dragons. Pas exactement ce que j'avais en tête en soi, mais elle n'a pas tort, c'est dans le thème. Personnellement, j'ai d'abord pensé au culte religieux. Celui moins fantaisiste et plus inquiétant, celui qui m'a fait étudier sans comprendre des passages de la Bible pendant mon enfance, et qui font que maintenant, je me méfie de celles qui voudraient partager leurs bonnes paroles avec moi. C'est un sujet personnel qui met des cheveux dans plein de soupe, alors bof, je vais pas partir là-dedans pour ce thème. Ensuite, j'ai pensé à culte de la personnalité. Il y a probablement beaucoup à dire, mais je ne suis pas historien, et j'ai que mon ressenti personnel, qui est qu'au premier abord, je pense aux cours d'histoire où on a étudié la propagande. Puis je pense aux célébrités et à leur image médiatique qui met un voile sur la réalité de qui ils sont au fond. Je pense à la série qui était passée sur Arte, Monstre Sacré, en 2016. Je pense au mouvement MeToo et aux dénonciations faites contre les acteurs et ou célébrités à haute notoriété. Il y a beaucoup de choses qui ont été effacées, ignorées et oubliées depuis ce moment-là quand même. On préfère n'entendre que l'idéal, hein. Un peu comme si on montait des célébrités sur un piédestal, d'où elles seraient des entités parfaites, hein. J'extrapole peut-être, mais bon, une fois de plus, c'est sombre comme sujet, et je suis juste un pecno qui se creuse un peu trop la tête, qui devrait plutôt se concentrer sur un choix musical, au lieu de divaguer interminablement sur des sujets où il est mal renseigné. Au moins, je me suis renseigné un peu sur les œuvres cultes. Enfin, un peu. Parce qu'en vrai, la liste est longue, et je n'en connais pas le quart. Sans mentir, ce sujet m'a fait partir sur des réflexions interminables sur qu'est-ce qui fait qu'un film est culte. Et en vrai, la réponse est toujours pas nette pour moi. Je vais me permettre de vous lire des bouts d'articles qui m'ont fait sens, que j'ai trouvé en tapant connement « Qu'est-ce qu'une œuvre culte ?» sur Google. Je suis tombé sur un article de La Presse, rédigé par Chantal Guy en 2017, qui interviewe trois spécialistes afin d'avoir leur définition de ce qu'est une œuvre culte. J'ai abrégé un peu, je ne veux pas vous tenir la jambe trop longtemps, et faut encore que je choisisse sur quelle musique finir. Samuel Archibald, professeur de littérature, dit « Là où les œuvres de la culture savante sont étudiées à l'université et où les œuvres de la culture populaire sont en général consommées rapidement et ensuite plus ou moins oubliées, l'œuvre culte est adorée par un public de fans qui lui voue un culte assez littéralement. On décortique et on analyse les moindres épisodes, on en vénère les interprètes et les artefacts. L'œuvre culte est l'objet d'une dévotion. Elle ne correspond pas au goût du plus grand nombre, elle ne fracasse pas de prix ou de records d'entrée, mais pour un groupe d'initiés, elle est l'affaire la plus extraordinaire qui existe. » Il donne comme exemple Star Trek, The Rocky Horror Picture Show et l'ensemble des œuvres de John Carpenter. Anouk Wisseli, je ne sais pas comment on prononce, désolé, cinéaste, dit « Il s'agit d'une œuvre qui, indépendamment de son genre, de sa qualité ou de son succès box-office, a réussi à toucher et rassembler des fans dévoués et passionnés. Il n'y a pas de recette pour créer une œuvre culte. Ça peut être un personnage, l'esthétique, l'univers, quelque chose qui sort de l'ordinaire. » On ne décide pas de faire une série ou un film culte, ce sont les fans qui ont le pouvoir de l'élever ou non une œuvre à ce titre. Elle cite Breaking Bad, The Big Lebowski et Friday the 13th. Jarrett Mann, président fondateur du festival Spasme, dit « Le terme culte le dit. Il faut des groupes de gens qui peuvent regarder l'œuvre à l'infini, qui connaissent les répliques par cœur, les costumes et les personnages. On mélange souvent le classique avec le film culte, qui sont à mon avis deux choses complètement différentes. » Avatar n'est pas un film culte, même s'il a été un immense succès. Au festival Spasme, j'ai découvert cette intensité en faisant une projection spéciale de Back to the Future 2. C'était incroyable de voir la réaction des gens, et c'était un phénomène mondial. Il cite donc Back to the Future, Slapshot et Turbo Kid. Personnellement, j'ai été plutôt satisfait de ces réponses. J'avais regardé des listes de films dits cultes par leurs auteurs, et pas un tiers est entré dans ma définition déjà très approximative. Comme disait Jarrett Mann, on confond vite culte et classique. Aussi, j'ai regardé des vidéos de répliques cultes, et peut-être 2% étaient dites par des femmes, et je dirais bien qu'à vue de nez, 35% étaient contre des femmes, sous forme d'insultes, jugements gratuits ou moqueries. Bizarrement, je savais pas ce que ça avait de culte, mais bon, on va me dire que hors contexte, forcément, c'est pas drôle, ça marche pas. Bref, avec tout ce cheveu dans divers soupes, je n'ai toujours pas trouvé la musique que je veux mettre. Et dans un dernier élan de désespoir, je relis un peu mes notes de quand j'avais cherché ce que ça voulait dire, culte. Et apparemment, j'étais agacé et frustré, parce que toutes les musiques listées comme telles étaient occidentales. J'en avais conclu, en majuscule avec des points d'exclamation partout, qu'en termes de musique, si ça venait d'Europe centrale ou des US, c'était validé comme culte. Je suis mauvais, j'admets, mais ça va avec mon pessimisme. Ça, et les gens ont un dégoût... bien de merde, quoi. Et du coup, avec tout ça, j'ai enfin une idée. Bien de merde, elle aussi. Ça a parlé de Star Trek. Je suis pas un fan aguerri, mais j'aime beaucoup ce qui a été fait comme série dans les années 90. Et il me vient en tête celle sortie de 2001 à 2005, que j'ai viscéralement méprisée, Star Trek Enterprise. Son générique est immonde et est culte chez les Trekkies, car il est le pire choix musical de toute la franchise. Ça s'appelle Faith of the Heart, écrite par Diane Warren, reprise et renommée Where My Heart Will Take Me par Russell Watson. Je vous laisse avec ça. Bisous, c'est cadeau. It's been a long road, getting from there to here. It's been a long time, but my time is finally near. And I can feel the change in the wind right now. Nothing's in my way, and I'm not gonna hold me down no more. No, they're not gonna hold me down. 'Cause I've got faith of the heart.
Et voilà, culte selon le sens du son, c'est déjà fini. J'espère que la qualité sonore de cette introduction n'aura pas trop heurté vos tympans, auquel cas, je m'en excuse, et je vous dis au mois prochain pour un prochain épisode.